Jean-Marie Kerwisch, né en 1952 d'une famille de gitans piémontais, vit aujourd'hui à Aubervilliers, dans la banlieue parisienne. Écrivain et poète, il est notamment l'auteur de « L'évangile du gitan » chez Mercure de France et de « L'ange qui boite ».
J'ai vécu dans des conditions très dures. Je suis né en 52 et je suis né dans le 10e à Paris ici. On vivait pas loin ici à Aubervilliers dans une verdine, une caravane, une vieille caravane gitane. Et nous, les gosses, mon père, c'est pas difficile. Tu vas apprendre à faire des flic-flac et des sopérieux. Alors, c'est-à-dire sopérieux, ça veut dire flic-flac, être acrobate. Alors, il me donnait les bases, et puis alors après, ça devenait brutal. C'est-à-dire, voilà, tu vois, je vais mettre deux cailloux par terre. Si tu ne te jettes pas en l'air et que tu ne groupes pas tes genoux et que tu ne reviens pas sur tes pieds, tu vas te fracasser la tête par terre. Mais le problème qu'il y a, que même si tu te fracasses la tête par terre, moi, je vais te la fracasser encore plus. Puis après, tu vas le faire. Alors, c'était très dur. Alors, moi, je me jetais, quoi. Et puis, j'avais le cœur qui battait comme un tambour. J'étais effrayé. J'ai été tabassé parce que ça faisait partie à l'époque du monde des gitans, d'un monde brutal.
Pégase. Dans mon enfance, j'étais déjà perdu. Parce que mon âme m'avait déjà instruit à mon insu. J'ai vécu avec ma grand-mère dans une verdine à Aubervilliers, puis à Clichy. Mes parents faisaient travailler des chiens savants. On leur faisait revêtir toutes sortes de costumes. On présentait nos chiens dans les cinémas à l'entracte. C'était l'attraction. Après, on rentrait sous la pluie. Les chiens étaient mouillés, ça sentait et l'odeur se mélangeait à celle du pétrole quand on était dans la verdine. On se réchauffait dans cette odeur immonde et on mangeait une soupe au cube avec des petites pâtes de vermicelle. Parfois mes parents se battaient. Je les séparais et mon père me jetait dehors, dans la boue. On ne peut pas oublier tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais égaler Pégase, le cheval ange, et avoir la douceur de son galop qui va de nuage en nuage.
Un peu le mouton noir, comme on dit, hein. C'est-à-dire que pour les gens de tous les jours qui me voient dans la rue, je suis un gitan. Dans ma manière de me vêtir, dans ma manière de parler, dans ma manière de me comporter, c'est naturel chez moi. Ils voient tout de suite que je suis pas comme eux.
Que les gens d'ici,
ce qu'on appelle les gadjos, les gadjés, quoi. Oui. Pour eux, je suis un gitan. Et il y a un paradoxe, c'est que chez les gitans, je suis un gadjo. Je suis un gadjo parce que, d'abord, je parle pas comme eux, j'ai pas le même accent, j'ai pas les mêmes propos. Eux, leur conversation, ça s'en tient simplement à gagner leur vie. Ils ont, d'ordre général, les voyageurs français. Moi, j'ai des cousins qui sont à Perpignan, j'ai des cousins qui sont à La Ciotat. Quand je vais les voir, je peux pas rester plus qu'une journée avec eux parce que les conversations ne s'en tiennent que celui qui a le plus beau manège ou celui qui a la plus belle voiture, celui qui a la plus belle caravane, voilà. Et moi je vais m'acheter telle caravane, moi je vais m'acheter celle-ci. Et moi j'ai trouvé une combine et moi j'ai fait ça. Bon voilà. Alors moi j'ai jamais voulu m'intellectualiser, j'ai jamais cherché à être. Mes parents, c'est un peu de la faute de mon père parce que lui. Il a voulu, quand il a quitté l'Algérie, il est né en Algérie, et que le cirque, ils avaient un cirque, mon grand-père est mort, tous les frères se sont un peu dispersés, mon père est venu en France, il avait un excellent numéro de trapèze aérien, et il s'est fait engager dans différents cirques en France, et bien entendu, il est rentré dans le contexte artistique. C'est-à-dire qu'il n'est plus le même. C'est-à-dire que là, c'est les paillettes, les costumes, c'était l'époque du music-hall, quoi. Alors, lui aussi, de son côté, il cachait un petit peu sa véritable identité, quoi. pour pas montrer aux autres qu'il était d'origine gitane. Sinon, ça faisait, c'était mal vu à l'époque dans le contexte artistique, quoi. Hein. Même Django Reinhardt, il a eu du mal à percer. Même beaucoup de gens du voyage avaient du mal à percer. Fallait pas être un gitan pour être artiste, ni écrivain, ni ci, ni ça. Aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé, quoi. Alors moi, j'ai vécu avec mon père dans un contexte quand même familier. On a vécu quand même dans les caravanes, hein, pendant plus de 25 ans. On travaillait dans les cirques. On faisait un peu. On avait un cirque au Québec. Et au Canada, je suis allé jusqu'à la baie du Pson, j'ai rencontré donc les Indiens, les Esquimaux, j'ai rencontré tous ces êtres-là. Tant qu'à mon enfance, oui, bah, elle a été bercée dans les voyages. On est allé partout faire des spectacles avec notre petit chapiteau, au point que moi j'étais habillé en clown sur la voiture et que les Indiens j'étais des cailloux parce qu'ils me prenaient pour un monstre. Et c'était le curé, parce que tout était dominé par les prêtres à l'époque. Hein. C'était les prêtres qui avaient la domination sur ces gens-là, pour les évangéliser. Alors, c'était les prêtres qui en fait, d'abord, leur donnaient un pourcentage sur ce qu'on gagnait.
C'est quand même assez surréaliste de voir arriver un cirque gitan dans des tribus indiennes.
Ah ben, c'est arrivé. C'est arrivé, Yves, j'ai vécu ça. Ce serait même difficile à écrire. Bon. Parce que ça a été tellement vécu avec une telle intensité et une telle improvisation que c'était vraiment incroyable. On avait la caravane qui était à 3 mètres, le chapiteau qui était à 8 mètres, et à 3 mètres, on avait les ours qui voulaient rentrer dans la caravane pour bouffer ce qu'il y avait dedans. Alors il fallait taper les ours, c'était des gros grizzlies, hein, c'était des machins, il fallait leur jeter des cailloux. Après, c'était les Indiens qui venaient voir ce qu'ils ne comprenaient rien. Après, il fallait leur expliquer, alors, c'était tout. Et là, quand on était avec eux, on se retrouvait. Moi, quand je me suis retrouvé avec des Indiens au fin fond des Laurentides, là au Québec, j'ai vu carrément une similitude avec les Gitans. Hein, c'est carrément. D'abord, ils se mélangeaient pas avec les Canadiens français. Ils avaient leur propre code de vie. C'était simplement, ils faisaient un baraquement le jour, le lendemain il était détruit. Ils en faisaient un autre plus loin. Ils chassaient l'orignal, ils chassaient, ils pêchaient. D'ailleurs, j'ai pêché avec eux, tout ça. Là, je me suis senti vraiment avec des gens du voyage, et eux, ils ne le savaient même pas. Et mais il y avait ce sentiment, quoi. C'était des gitans, quoi. C'était des gens qui voulaient préserver leur liberté, leur manière de vivre, tout ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'on leur a... moi, ce que je trouvais écœurant à l'époque, c'est qu'on leur interdisait... On leur interdisait l'alcool, on leur interdisait... ils avaient juste le droit de chasser sans permis. Mais ils ne pouvaient pas boire d'alcool, parce que soi-disant, ça les rendait fous. Mais ce n'était pas vrai. Parce que moi, quand je voyais les Canadiens français, les Blancs qu'on appelle, ils étaient beaucoup plus ivres quand ils allaient chasser ou quoi que ce soit que les Indiens. Et alors, suite de ça, mon père, il s'est dit, écoute, j'ai maintenant 55 ans, j'ai envie de rentrer en France, parce que je veux voir mes frères. Et alors, on est rentré en 79, comme vous dites. Et moi, là, je me suis retrouvé complètement, là, vraiment, nomadisé. Parce que là, je me suis retrouvé dans cette ville de Paris. J'y ai passé une partie de mon enfance, mais je l'avais oublié puisque j'ai vécu longtemps en Amérique. Mais quand j'ai revu en 79 Paris, ce gris, en plein mois de novembre, toutes ces voitures, tous ces gens... Moi qui avais connu les grands espaces canadiens, les lacs, les forêts multicolores, ces Indiens, ces ruisseaux, ces lacs, ces montagnes, je me demandais qu'est-ce que je fais ici, quoi. Je me suis senti, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, un peu vraiment déraciné, quoi. Et je le suis encore. Je suis encore. Mais je ne pourrais plus retourner, comme je suis un nostalgique, je ne pourrais plus retourner dans ces endroits. Ça me ferait trop pleurer, quoi, parce que j'y ai vécu trop de choses, quoi.
Comment est-ce qu'on peut venir du milieu du cirque gitan à Mercure de France?
Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui dépasse l'homme. Je pense que c'est un... Je suis un homme qui suis croyant, mais qui n'a pas la foi. Moi, j'ai pas la foi en Dieu. Hein, mais je suis croyant. Je sais que Dieu existe, je sais que Jésus existe, mais je suis pas un homme de foi. Et je pense que le fait que j'écris ne vient pas de moi, vient de quelque chose de l'au-delà qui m'a... Comme j'ai toujours été très sensibilisé par la nature, mon premier poème, je l'ai écrit quand je devais avoir 12 ans au Canada. J'allais à l'école, c'était l'automne, il y avait des feuilles mortes par terre. Et je trouve ça dommage d'écraser ces petites feuilles-là qui étaient si belles. Et je me suis mis à écrire un poème là-dessus. Et le lendemain, les professeurs ont dit, parce que vous avez fait vos dictées, moi j'ai donné ma dictée, et la professeure, elle est assez surprise, elle dit, mais c'est toi qui as écrit ça? Je dis oui. Alors elle en a fait part tout de suite, et j'ai été convoqué chez le directeur, mais qui t'a appris à écrire comme ça et tout ça? Ben j'ai tout seul, j'écris ça tout seul. Et mais il dit, mais tous les mots que tu emploies, ah ben j'ai ça, je l'ai appris des Indiens. Puis comment ça? Ben j'ai oui, parce que moi j'adorais regarder les westerns, comme à l'époque, comme tous les jeunes, on adorait les westerns. Et dans les dialogues entre les cow-boys et les Indiens avaient toujours un langage poétique. Si ce n'est que par leur prénom, par leur manière d'être, ils avaient un langage poétique. Et ça m'avait toujours frappé. Et c'est là qu'est née en moi la poésie, quoi. Et ensuite j'ai écouté Brel, j'ai écouté Brassens, j'ai écouté Jean Ferrat. Et là, c'est déclenché en moi l'envie de lire, et j'ai commencé à lire Rimbaud, Verlaine, enfin tous les contemporains, quoi, tous les poètes contemporains. Je me suis instruit tout seul. J'ai lu donc Molière, Balzac, pour apprendre le verbe, les conjugaisons, tout ça. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle idée pour écrire, mais il faut savoir l'écrire. Hein. Il faut qu'un poème, il faut qu'un texte, il chante.
Les mauvais livres. Je ne sais pas écrire avec talent. Je ne connais pas la méthode. Je suis comme la vigne qui n'a pas été traitée. J'essaie de donner avec le peu de soleil qui m'est offert un bon vin, sans colorant. Je n'ai pas de prétention littéraire. Je ne me crois pas poète ou philosophe, mais je veux servir la pensée. Pendant que je me tourmente chaque nuit, cloîtré dans ma prison de chair, les faux poètes ripaillent et poétisent sans connaître le vrai sens des mots. Tous ces écrivains qui posent pour leur propre gloire, le temps les emporte avec lui vers les décharges du ciel. Je ne connais rien au monde littéraire, mais je sais distinguer les bons livres comme je sais reconnaître une simple fleur des champs. Chaque heure de ma vie, j'aiguise comme des couteaux mes phrases, à seule fin qu'elles puissent trancher la gorge des mauvais livres.
On est tous des êtres humains sur un caillou qui s'appelle la Terre, et on a stigmatisé les Roms. Nous sommes actuellement en train tous de devenir des nomades, et une majorité de gens, actuellement même aux États-Unis, deviennent, sans qu'ils le veuillent, des nomades. On les chasse de leur maison, on leur prend le peu qu'ils ont parce qu'ils ne peuvent plus payer, et si, cela. Bon, nous devenons un peu tous des nomades, une espèce de bohème complètement qui n'a rien à voir avec la bohème de Puccini, d'une misère agréable. Là, c'est une misère vraiment catastrophique. Moi, j'ai vu ces gens ici, dans le quartier où j'habite, vivre dans des conditions que c'est absolument inimaginable et inconcevable de laisser des gens comme ça, à même qu'ils soient des voleurs, à même qu'ils soient ici ou ça. On ne laisse pas des enfants, des femmes, dans des conditions pareilles, sans hygiène. Alors, il est bien entendu que sur un plan politique, la France, la Roumanie, ça les intéresse pas. Parce que c'est un territoire où il n'y a pas de richesse. Il n'y a que des cailloux, il n'y a que des montagnes. Ils vivent misérablement depuis que la chute de Ceausescu il y a plus de 25 ans. Et donc, il n'y a pas d'intérêt pour les pays de recevoir les Roms. Bon, aucun intérêt. Par contre, on va recevoir des Africains. De l'Afrique centrale ou du Maghreb, on va les recevoir parce que là il y a un intérêt financier pour la politique, si ce n'est le gaz, le diamant, le pétrole, plein de choses. Alors, donc là on va recevoir des gens de couleur et on va les installer, leur trouver un endroit. Il y aura des petites polémiques, mais à la finale ils auront un logement, ils auront tout ce qu'il faut. Que les Roms, non, non. Alors il y a des associations, il y a des gens qui les défendent, qui essaient de les aider, mais le gouvernement par lui-même, la seule initiative que le gouvernement français a su trouver, c'est de leur donner de l'argent, de les mettre dans un avion et puis de les remballer. Pour moi, je considère ça un petit peu presque comme un holocauste, comme ça s'est passé au temps des nazis. On mettait les gens dans les trains et on les renvoie carrément en Pologne pour se faire tuer. Parce qu'il faut pas oublier qu'en Roumanie, les Roms sont chassés, on leur tire dessus à coups de fusil dès l'instant qu'on les voit passer. Moi, je trouve ça inadmissible parce que, en tant que penseur, en tant que poète, mon droit et mon devoir, c'est de défendre mon prochain, qui que ce soit. Je ne pense pas que les gens, en majorité, ont envie d'être des nomades. Non. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a une petite minorité qui souhaiterait l'être, ou qui veulent le devenir, mais qui veulent... Il y a cette sorte de nomadisme, malheureusement, aujourd'hui, qui est... obligatoire. C'est-à-dire ils sont obligés de partir. On les fout dehors parce qu'ils n'ont plus de moyens de payer d'électricité, le téléphone. Alors on les retrouve couchés dans des voitures. Comme là, j'ai vu aux États-Unis, là, ils dorment dans les voitures. Ils dorment parce que. Alors là, c'est un nomadisme forcé. Ils sont obligés de foutre le camp. Ils sont obligés, malgré eux, de foutre le camp. Mais ces pauvres malheureux, ils n'ont pas. Moi, comme je leur dis à tous, parce que même où je travaille actuellement, ils se font du souci. Écoutez, moi j'ai un appartement, je m'en fous, je vais le vendre avec le fric, je m'en fous, je vais m'acheter une caravane et puis je sais pas où je vais aller en Espagne. Moi je m'en fous. Je m'en fous. Là, si j'ai rien, j'ai rien. Moi, est-ce que tu peux. J'ai vu un reportage où il y avait des gens qui vivaient dans des caravanes, des gadgets. Bon. Parce qu'ils n'avaient plus de maison, parce qu'on les a foutus dehors. Ben ils étaient malheureux. Pourtant, il y avait de l'eau, il y avait un endroit pour dormir, il y avait un lit. Faut pas oublier que moi, on a vécu pendant 20 ans, mes deux sœurs, mon père et ma mère, dans une caravane de 6 mètres. Alors, imaginez ce que c'est. Vous entendez votre père faire l'amour avec votre mère, vous entendez des bruits de tous les côtés, vous osez pas bouger, vous osez pas réveiller les uns, réveiller l'autre. Mais... on y était habitué, quoi. Alors ces gens-là, ils avaient des caravanes qui faisaient, je sais pas moi, c'est des mobilhomes, là. Ils n'arrivaient pas, il fallait la maison, il fallait l'escalier, il fallait ci, il fallait ça. Je pense qu'il y a une grosse majorité en Occident que si on leur enlève leur petite maison, leur petite voiture, leur petit bout de pain, leur petit, ils sont complètement paumés, quoi. Ils sont perdus. Ils sont complètement perdus. Mais si ce ne fait que de perdre leur travail, moi je les vois, perds ton travail, tu en trouves un autre, tu te débrouilles, tu te démerdes. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, quand je travaillais en tant que je faisais du spectacle, on travaillait dans les hôpitaux psychiatriques, dans les maisons, dans les homes pour personnes âgées. Pendant 5 ans, j'ai travaillé dans les homes pour personnes âgées en Belgique. J'allais dans un home, je frappais, bonne femme, elle ouvre la porte, Je dis bonjour madame, je me présente, je suis un tel, on a un petit spectacle de famille, on a des petits chiens, et des petits singes, et puis on a un petit oiseau, tout ça, on fait du spectacle. Alors la dame disait, oui mais nous c'est tout petit, c'est... Ben, je dis, vous savez, nous on s'adapte partout, on peut même travailler sur une table, puis on fait plaisir aux gens, ça leur fait plaisir d'avoir des animaux. Ah, elle dit, oui ça c'est vrai, parce que nous on n'a pas le droit d'avoir des animaux dans les homes. Ah ben c'est d'accord, mais ben, donnez-nous 100 euros, 75 euros. Et on se faisait 2-3 maisons de home comme ça dans la journée, et on gagnait notre vie. Ou alors c'était dans un hôpital psychiatrique, ou dans un... Partout où il y avait un rassemblement de monde, on se débrouillait, quoi. Mais allez demander aujourd'hui à un gars de se démerder, il est paumé, s'il a pas son patron, s'il sait pas où aller, il sait plus où aller. Pendant que chez le gitan, il y a toujours cette démerde, excusez-moi du terme, il y a toujours cette démerde de dire, on va trouver une solution, comme ils font les Roms, là. Je les vois, là, ils trimballent dans les caddies des bouts de métaux, des bouts de scie pour aller les vendre. Je suis un gars qui peut me démerder avec, tu me mets demain dans la rue, j'ai pas un rond pour bouffer, 10 minutes après, je vais faire manger 10 personnes. Et c'est cette débrouille qui a sculpté le monde nomade, le monde gitan. Voilà. Mais aujourd'hui, le nouveau nomadisme, c'est un nomadisme quand même vraiment effrayant, parce qu'on voit des gens qui sont incapables de se débrouiller, quoi. Ils sont obligés d'aller au Resto du Cœur ou je ne sais où, à droite, à gauche, pour manger, parce qu'ils sont incapables d'avoir un boulot, quoi. Alors ils sont obligés de, même des jeunes, qu'ils ont bac 1, bac 2, bac 6, je sais pas quoi, je sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs, et ils trouvent pas de boulot, quoi. Alors ils étudient, c'est un nomadisme un petit peu effrayant qui se passe actuellement, quoi. Aussi, c'est ça que j'ai toujours dit, il y a des gens qui des gadgets, qui mériteraient d'être gitans, et des gitans qui ne mériteraient pas de l'être. Ça, je l'ai toujours dit, hein. Moi j'ai connu des gens qui sont pas du tout gitans de sang, mais qui sont 1000 fois plus gitans qu'un vrai gitan.
Mais c'est quoi alors être gitan?
Oh ben c'est simplement je pense ne pas se prendre au sérieux. Faut pas se prendre au sérieux. Faut imaginer que la vie n'est qu'une étincelle.
Les anges. Enfant, j'ai connu la faim. J'ai partagé avec des rats des biscuits volés dans un wagon de marchandises. Aujourd'hui, la souffrance est ma nourriture quotidienne, mais elle a la saveur de la pensée. Une pensée douce, comme la parole du Messie. Où sont les anges? Sûrement près de moi, à côté des poubelles. Ou bien dans le long couloir sordide du bâtiment qu'on me demande de surveiller. Je ne suis pas poète, je suis simplement le dernier de la classe humaine. Comme quand j'étais enfant et qu'au lieu de regarder le tableau noir, je regardais inexorablement le ciel, sans savoir qu'il existait un autre monde. Aujourd'hui, je suis toujours le dernier de la classe humaine, mais je sais qui vit dans la beauté du ciel.
Alors après, on a une autre communauté de gitans en France qu'on appelle les voyageurs. Alors ce sont eux des gens qui ont plus de moyens, ils ont des belles caravanes, ils ont des belles voitures. Ils sont d'origine manouche. C'est tout des gens qui viennent de l'Est, hein. Actuellement, on a une grosse communauté de gens du voyage français, qui sont français, qui n'ont rien à voir avec les Roms et qui ne veulent pas s'assimiler avec eux. Parce qu'ils les trouvent sales, parce qu'ils les trouvent voleurs. Donc, tu sais, c'est un petit peu comme toutes les tribus indiennes d'Amérique du Nord. Les Iroquois, ils ne s'entendaient pas avec les Algonquins ne s'entendaient pas avec les Apaches, ou les Apaches ne s'entendaient pas avec telle communauté indienne. Et pourtant, c'était tous des Indiens. Mais il y avait des choses qui n'allaient pas entre eux, quoi. Et ça se passe exactement dans les communautés du voyage, quoi. Donc les voyageurs français d'origine manouche ne vont pas, par exemple, mettre leur caravane à côté des Roms. Je pense qu'actuellement, ceux qui conservent vraiment le côté nomade, réel, typique, ce sont les Roms. Ils ont un seul souci, c'est qu'il y a un manque d'hygiène. Il y a beaucoup de mariages consanguins, quoi, c'est-à-dire qu'ils se marient entre cousins, cousines. Mais au fond d'eux-mêmes, dans leur misère la plus totale, moi j'ai constaté qu'ils gardent un sourire, une espérance, une croyance, quelque chose qui... Ils ont encore cette divinité en eux, quoi. Ils ne sont pas encore bouffés par les modes. Voilà, les Roumains, moi, les Roms, ne sont pas mangés par les modes. Tandis que les Gitans d'origine espagnole conservent le flamenco par tradition, mais sont quand même imprégnés par les modes actuels que la société américaine et occidentale nous impose, quoi.
Voilà. Mais est-ce qu'on peut penser de manière assez romantique que les Roms, les Gitans, sont les derniers hommes libres?
Un poète a dit un jour que le jour où il n'y aura plus de gitans, il n'y aura plus de liberté. Hein. Bon, moi souvent je vois une petite herbe qui pousse à travers du béton. On a beau mettre un tas de béton sur la surface de la terre, au bout d'un certain temps, on voit une espèce de petite tige qui sort du béton. Une petite tige que tu peux couper avec ton doigt, comme une petite fleur, une petite plante. Comment a-t-elle réussi à pouvoir passer à travers le béton? Donc c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que l'homme.
Les policiers. Au marché aux puces de Montreuil, il y a des mendiantes ciganes. Certains n'ont plus de pieds ni de mains. Et leur torse est brûlé. Mais tous semblent heureux de posséder un handicap comme outil de travail, pour pouvoir mendier. Il m'a semblé que leur âme était devenue un chapiteau, tant l'art de leur état leur donnait presque une joie. Et puis j'ai vu une petite caravane, celle du gitan solitaire. Il ne semblait pas être là, mais soudain, j'ai vu ses jambes. Il portait un pantalon noir bien coupé, qui tombait droit sur ses chaussures à talons hauts. Pas un pantalon de tous les jours, non, un pantalon fuselé. Alors j'ai vu une remorque enlever sa caravane. J'ai demandé aux policiers à qui elle appartenait et ils m'ont répondu « À vous ».
Je travaille actuellement dans un truc d'une banque en tant que gardien. Parce que je gagne pas grand-chose, mais ça me permet d'écrire parce que je suis dans une espèce de petite guérite, et c'est là qui m'a permis d'écrire mon livre. Et puis il m'est arrivé un truc où là, mon instinct gitan s'est réveillé. Je parlais avec les hôtesses d'accueil pour savoir s'il y avait des consignes à prendre. Et il est arrivé un espèce d'abruti, une espèce d'encravaté là, qui est arrivé là. Qui travaillait à la banque, un chef de la banque BNP, il vient vers moi, il me fait « Vous n'avez rien à faire à parler ici devant les hôtesses, vous n'avez qu'à aller dans votre guérite ou vous allez au PC sécurité. » Alors là, en moi, c'est réveillé le gitan. Alors j'ai dit « Écoute, espèce de gros con, d'abord, tu ne vas pas parler devant les dames qu'elles sont là, ça ne se fait pas, c'est impoli d'abord vis-à-vis elles, vis-à-vis moi, on va se mettre au milieu là. » Alors maintenant, je vais te dire un truc. Tu vois, tu es en haut de l'échelle. Un jour, tu vas te casser la gueule. Tu seras en bas de l'échelle. Maintenant, si tu n'es pas content, j'ai dit, gros con, tu sais quoi? On va aller derrière s'expliquer, derrière le bâtiment, tous les deux, sans témoin. Et on va voir dans quel état tu vas revenir. OK? Et je vais te dire même encore plus. J'ai qu'à donner un numéro de téléphone. Et sur le parvis, là, tu vois, il est beau le parvis. On peut mettre facilement 50 caravanes. Je donne un coup de téléphone et il y a 50 caravanes de manouches qui vont venir s'installer et de Rome. Et en plus, tu leur donneras l'électricité et l'eau. Sinon, ils vont te mettre à mort. Capiche? Alors, il m'a regardé, il m'a dit... Il était tout venu vert, rouge, tout ça. J'ai dit, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je ne suis pas de la même race que toi. Je suis de la race du voyage. La race de la colère. La race de la justice. Et ce que tu viens de faire là, ça ne se fait pas. Si t'avais quelque chose à me dire, t'avais qu'à m'appeler, Discrètement, il me le dit derrière. Mais t'as voulu jouer ton bachot devant les filles, pauvre con. Eh ben, voilà ce qui t'arrive. Une demi-heure après, il est derrière, il me dit, je viens m'excuser, j'aurais pas dû dire ça. J'ai l'affaire est oubliée. Ça, c'est l'instinct. C'est toute la violence que j'ai accumulée, qu'on m'a fait accumuler dans ma vie, qui ressort. C'est ma seule défense. Ma seule défense, c'est de dire, je suis un gitan. Vous m'emmerdez, je vous emmerde. Même à un flic. Je lui ai sorti l'autre jour à un flic. Je me demande comment ça se fait que je suis pas en prison. Parce que j'ai plus de points sur mon permis de conduire. Il regarde mon permis de conduire, il me dit, vous restez un point. Je dis, oui, il me reste un point. Eh ben, ce point, eh ben, je vais te le foutre dans la gueule. Alors, il m'a regardé, il m'a dit, mais ça, c'est outrant, ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il était avec l'autre, et il dit, bon, laisse-le partir, c'est pas le moment, allez, dégage. Et je suis parti. Mais je lui ai dit, il me reste un seul point, tu vas l'avoir dans la gueule. Voilà. Et ça, c'est tout mes instincts qui sont, qui sortent comme ça. C'est un petit peu comme un. Ça sort. Alors, bien sûr, je suis constitué de toute cette espèce de plâtre, de ciment qu'on a foutu sur moi, les impôts, les ci, toutes les conneries, les machins. Je suis emplâtré de toute cette espèce de vol légalisé par les États. Mais à un moment donné, je fais éclater en morceaux tout ça, quoi. Si on m'emmerde. Et ça, c'est un petit peu le. L'avantage qu'ont les gitans de faire ça. Ça n'a rien à voir avec les robeux, toutes les bandes organisées, que ça c'est du banditisme, hein, qui vendent des armes dans les cités, là, ou qui vendent de la drogue, du hashish, ou toutes ces genres de choses. Ça, d'abord chez les gitans, ça se fait pas. Il y a très peu. Hein. Il y a une forme de respect quand même du prochain.
Qu'est-ce qui ne se fait pas les armes ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui ne se fait pas ?
C'est-à-dire, eux, ils sont d'ordre général croyants. Alors, de vendre de la cocaïne, des choses comme ça, ils savent que ça tue les gens. Donc, il y a peut-être une minorité qui le fait. Mais dans le milieu du banditisme gitan, je crois que ça s'adonne simplement qu'au vol d'objets antiques, de vol organisé d'objets antiques, des choses comme ça, quoi. Hein. Ça, c'est le milieu côté bandit des gitans. Hein. Mais une grosse majorité voyage en France. Il y en a qui sont ramoneurs ou alors qui ont toutes sortes de choses qui leur permettent de subsister, quoi, de survivre. Hein. Des fois, on leur dit, mais comment ça se fait que vous avez une belle Mercedes, vous avez une belle voiture? Ben, ils répondent, vous avez bien une belle maison, vous avez bien une belle voiture aussi. Nous, c'est notre seule richesse, c'est d'avoir une belle caravane et puis une belle voiture, c'est tout, quoi. Voilà.
Je me demandais si une des grandes différences entre les gitans et les gadjés, c'est la notion du temps. Nous, occidentaux, on vit dans une notion du temps qui est linéaire, c'est-à-dire que les jours se suivent et dans une chronologie, puis il y a des mois, des années, on fait des plans, des projets, tout est structuré dans le temps, on a une vision du temps. Tandis que beaucoup de civilisations, d'ethnies, vivent dans un temps cyclique, c'est-à-dire, comme les anciens, chez nous, que c'est le même jour qui recommence tous les jours.
Oui, tout à fait. Voilà. Moi, j'étais éberlué l'autre jour, quand il y a eu les manifestations d'étudiants à Paris, où on voyait des gamins de 13-14 ans qui n'étaient pas des casseurs. Hein. J'en ai vu deux ou trois parler à la télévision. Il avait quoi, 13 ans, 14 ans, et il parlait de sa retraite. Moi, j'ai été complètement éberlué. J'ai dit, mais comment est-il possible qu'un gars à 14 ans fait une manifestation pour sa retraite? Il est tout juste sorti du ventre de sa mère et il pense déjà à sa retraite. Moi, ça m'a complètement rendu. Je dis, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable que pour nous, les gens du voyage, enfin, moi qui suis gitan au fond de moi-même, je sais même pas ce qui va m'arriver demain. si ce n'est que dans l'instant qui va suivre. D'abord, j'ai écrit un texte où je dis, si on était maître de nos pas, on trébucherait à chaque instant. Vous voyez, alors, chez les gadgets, comme on dit, il y a cette espèce, comme tu dis, d'avenir qui se prépare. Il se prépare des avenirs, il se prépare des projets, il se prépare des tas de choses. C'est bien. C'est pas méchant. Je préférais employer le mot, tiens, je rêverais qu'il m'arrive ci, je rêverais qu'il m'arrive cela. Mais dire, dans 10 ans, je vais faire ci, ou dans 20 ans, je vais faire ça, et puis dans 20 ans, je veux ma retraite, et puis dans 5 ans, tout ça, c'est complètement ridicule. Mais complètement ridicule. Qui sait ce qui va se passer dans les prochains jours qui va arriver? Vous voyez, alors, chez nous, ça n'existe pas. Ça, il y a ça, non. Ça, c'est aujourd'hui, et puis c'est tout. Demain, s'il y a un demain.
Mais cette notion du temps peut expliquer le manque de gestion, par exemple. Les gitans vont pas gérer. Ils ont quelque chose, un objet neuf. Ils vont pas le soigner. C'est pour l'instant, maintenant. C'est pas pour le.
Ils cassent tout. Ce sont des casseurs. Une caravane dure pas longtemps chez eux. Ils sont pas du tout matérialistes. Non, pas du tout matérialiste. Alors, ils peuvent une voiture, mettons, ils ont 5-6 gosses, ils achètent une voiture toute neuve, les gosses rentrent dedans, avec la boue, ils s'en foutent complètement. Bon. Moi, je suis pas d'accord tout à fait avec tout ça. Il faut un juste milieu. Bon, moi, je suis un gitan, j'aurai 3-4 gosses, j'ai une belle voiture, j'ai payé très cher. Je vais quand même pas les laisser abîmer ma bagnole. C'est ça qui manque chez le monde, chez les gens du voyage en Occident. Ils ne savent pas faire le juste milieu des choses. Ils ne le savent pas. Et ils ne veulent pas. Certains, oui. J'en connais certains que oui, ils s'intéressent à la littérature, ils s'intéressent à la poésie. Tu vas par exemple au Sainte-Marie-de-la-Mer, moi je suis allé il y a pas longtemps, il y a des poétesses gitanes, il y a des poètes gitans, il y a des poètes et puis aussi des voyants, des gens qui conservent encore sont des gens assez âgés, encore une beauté dans leurs yeux, dans leur âme, dans leur cœur, quoi. Et je vais te raconter une petite anecdote que m'a raconté un ami à moi qui est peintre, qui s'appelle Monger. Il est omnibulé par le monde des gitans. Il vit avec eux, d'ailleurs. Et il m'a raconté une histoire magnifique. Ils étaient dans l'Isère, dans une verdine. Tu sais, une verdine, c'est une caravane gitane. Tu sais, ronde, là. Les vieilles caravanes gitanes. Bon. Et puis ils étaient en train de parler, de manger, puis la porte était ouverte, il est arrivé un vieux, vieux, vieux gitan, mais il m'a dit, écoute, quand j'ai vu cet homme arriver, il m'a dit, je croyais voir, j'ai pensé qu'il avait au moins 125 ans, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il était plein d'or, c'est-à-dire sa poitrine était couverte d'or. Et il s'est assis, on lui a proposé à manger, et en face de lui, il y avait une petite gitane, elle devait avoir 5-6 ans, comme ça. Et il n'arrêtait pas de regarder la petite. Et les autres lui parlaient, ils répondaient à peine, ils regardaient juste la petite. À un moment donné, il a enlevé la plus grosse chaîne en or qu'il avait sur lui, et il a été la porter, il l'a passée autour du cou de la gamine. Tout le monde s'est demandé pourquoi, mais après tout le monde a compris. Et il est parti. C'est-à-dire qu'il a voulu, lui, en tant que vieux gitan, laisser cet or à cet enfant, dans le sens de lui dire, garde-le parce qu'un jour t'en auras besoin. Si t'es vraiment embêté, tu pourras le vendre et ça te rendra service. C'est pour ça que les gitans ont énormément d'or, parce que c'est un peu comme les juifs, c'est ce qui a sauvé un peu le monde, les juifs pendant le nazisme, c'est que c'est ceux qui avaient de l'or qui ont pu s'en sortir, quoi. Et les gitans ont gardé, l'or est très important parce que c'est un métal qui leur permet de pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir fuir, quoi. Voilà. Et il a donné donc de toute façon, il était très vieux, il allait mourir. Alors il a dit, tiens, je te donne, il a rien dit, il lui a mis autour du cou. Et c'est après que les autres ont dit, il l'a fait parce que ça lui servira un jour, ça lui permettra d'avoir un peu d'argent, quoi, pour pouvoir survivre. Oui, c'est moi l'acrobate, Catherine et mes savates, de petits cirques de boîte en boîte, pour un salaire de 3 fois rien. J'ai brisé mon cœur et mes reins, à faire tenir en équilibre ma vie sur ses deux mains, à faire tenir en équilibre ma vie sur ses deux mains.
Dans les mauvais jours, le cirque en famille, ça se passait comment? L'hiver, la survie?
On y était. Mon père y était habitué déjà quand mon grand-père avait son cirque en Algérie. Ils étaient 12 garçons. Quand il y avait 2-3 spectateurs, ça permettait de mettre un peu de gasoil dans le camion et puis d'aller un peu plus loin, quoi. Comme actuellement, j'ai des cousins qui ont un cirque vers Perpignan d'ailleurs. Si tu passes par là, il se fait appeler Cirque Royal. C'est les Kervich. C'est mes cousins Germain, ils sont 6 frères. Eux, c'est pareil. Un jour, ils travaillent bien, un jour, ils travaillent mal. Mais ça ne les empêche pas d'avoir le sourire. Ça fait partie de leur vie quotidienne. Ça fait partie. C'est comme presque une péniche, quoi. On te dit qu'il y a un chargement aujourd'hui. Tant mieux, il n'y en a pas. Tu es obligé de rester à quai et de manger quand même. Et en attendant qu'on te charge la péniche, c'est pareil. Hein, c'est des formes de cirque aussi, hein, tout ça. C'est des métiers.
Dans ta famille, c'était organisé comment? Il y a quelqu'un qui doit vendre les tickets ou on vend.
D'abord, il faut l'autorisation. On allait voir le maire de la ville. On allait voir le maire. On disait, monsieur le maire, voilà, on a un petit chapiteau. On voudrait faire un spectacle ce soir ou demain. Alors donc, il me disait oui ou non, donner un pourcentage, un petit quelque chose. Moi, j'allais donner des prospectus dans toutes les maisons. Ce soir, spectacle de cirque, qui se fait toujours d'ailleurs. Quand tu vois en France, il y a encore énormément de petits cirques qui circulent dans les banlieues et qui vont porter des prospectus dans les maisons. Et puis, ils ont une petite clientèle, mais une clientèle de mamans qui viennent faire voir une petite chèvre à un enfant de 5 ans ou un petit singe. On peut pas dire que c'est un cirque à paillettes comme Bouglione ou Pinder. Hein. Ça, c'est du gros business. Hein. Ça, c'est des cirques où tout est préparé à l'avance. Ils ont des comités d'entreprise durant l'été. Ils savent qu'en hiver, ils auront 25, 40, 50 000 spectateurs. Une fois qu'ils sont dans le cirque, on leur vend toutes sortes de saloperies. C'est du business à l'américaine. Mais le petit cirque de voyageurs, le petit cirque de famille, il en existe encore quelques-uns et qui sillonnent durant l'été, les plages, tout ça. Alors bon, ils font quoi, 40 personnes, 30 personnes, 20 personnes, et ils vivent bien. Hein, tout le monde mange dans la même gamelle, et puis quand un il se marie, chacun contribue à donner un peu d'argent pour lui acheter une caravane, pour qu'il fonde sa famille, quoi. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours une petite cagnotte pour ceux qui vont se marier, quoi. Hein, voilà. C'est très ancestral, hein. Mais la vie est dure, faut s'occuper des chevaux. Si tu vas chez mes cousins, ils ont 12 lions, 5 tigres, 8 singes. Alors il y a la famille à faire vivre, et puis l'autre famille qu'il faut faire vivre aussi, hein. Alors c'est du monde à manger, hein, tout ça. Mais comme il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On sait rien faire d'autre. Sur ce monde un peu bancal, je fais des sauts périlleux, puis des spirales pour le regard des badauds. Souvent mon âme a mal au dos, je peux pas avoir des exigences. J'ai jamais eu trop de chance, alors derrière le rideau, j'attends mon tour pour faire le grand saut. Après le spectacle, quand s'installe en moi le désespoir, je prends ma peine par la main, ensemble. On longe les trottoirs, on s'endort nos deux cœurs contre le cœur d'un rêve, et l'on attend que le jour se lève. Oui, c'est moi l'acrobate qui a traîné mes savates de petit cirque, de boîte en boîte, pour un salaire de 3 fois rien. J'ai brisé mon cœur et mes reins à faire tenir en équilibre mon espérance sur ses deux mains. À faire tenir en équilibre mon espérance sur ses deux mains. Moi, personnellement, j'ai fait du cabaret pendant 20 ans. J'avais un numéro de jonglage. Un très beau numéro de jonglage. Je jonglais, j'ai travaillé au Folies Bergères, dans tous les plus gros cabarets qui puissent exister, mais j'avais un beau numéro de jongleur. Bon. J'étais heureux. J'étais plus heureux dans un cabaret, d'abord. Quand tu penses qu'en Italie, c'était en 1981 ou 82, je gagnais l'équivalent aujourd'hui de 300 euros par jour. Je faisais mon numéro, un numéro qui dure 5 minutes, on me donnait 300 euros. Et je restais un mois. Et c'était tous les 15 jours. Alors je me disais, qu'est-ce que je vais aller foutre dans un cirque à nettoyer la merde des singes ? Je l'ai assez nettoyé pendant, pendant plus de 20 ans, hein. Il y avait 8 douze chiens, il fallait préparer la gamelle, la viande avec le machin, ça puait. Ça... Après, c'est des singes qui... Un singe, c'est un singe. Après, c'était des panthères. Après, à un moment donné, on en a marre, quoi. On se dit, ça va. Hein. C'est... Mais les gens aiment les animaux. Alors, ça nous faisait vivre, parce que les gens, ils vont dans les cirques, c'est pour voir des animaux, hein. De plus en plus aujourd'hui, hein, parce que sur le plan exploit, on a dépassé l'exploit. Un gars qui va jongler 9 massues, 10 massues, ou un qui va faire un double saut périlleux sur un fil, ça lui, dans sa petite cervelle, ça lui fait rien, puisqu'à la télévision, il va voir Iron Man, là, qui vole de tous les côtés, lui, non, il va pas faire la différence, hein. Et qu'est-ce que c'est que ce guignol qui saute sur un fil ? L'autre... Alors, ils ont une majorité de... ils ont des... D'ordre général, ils ont une cervelle grosse comme une graine de couscous. Alors, pour eux... Alors, on va au cirque, c'est plutôt pour voir une girafe, pour voir un animal qu'on n'a plus l'habitude de voir, quoi. Hein. C'est tout, quoi. Voilà. Moi, je me rappelle, avant, c'était le cabaret. Pourquoi le cabaret ? Parce qu'on venait voir les femmes. Les gars, ils venaient voir les femmes dans les cabarets. Ils venaient pas voir les acrobates et les jongleurs. C'était le seul endroit où on pouvait voir des femmes nues. C'était des stripteaseuses. Bon, il y avait 8-10 stripteaseuses. Après, elles allaient avec les clients, elles buvaient du champagne, ça faisait de la consommation. Mais il fallait une attraction pour justifier vis-à-vis de la loi que c'était un music hall, quoi. Maintenant, les cabarets ont disparu. Tu vas n'importe où, même sur ton téléphone, tu peux regarder un porno. Qu'est-ce que le mec il va aller foutre dans un cabaret ?
Un jour au coin d'une rue, dans un cercle de public, sans décor et sans musique, j'ai fait mon numéro. Une fille m'a souri. J'avais l'air honteux et misérable, habillé dans mon costume de diable. Je jonglais des torches en feu. J'ai vu l'amour brûler dans le creux de ses yeux. Mais le temps de partir, je n'ai pas pu lui sourire. J'avais l'air bête et pas malin, le feu éteint dans le creux de mes mains. Aujourd'hui j'ai vieilli, ne reste plus que sur les murs de ma vie quelques photos un peu jaunies, quelques photos ternies. Aujourd'hui j'ai vieilli, ne reste plus que sur les murs de ma vie quelques photos un peu ternies, quelques photos jaunies. Oui, 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 c'était moi l'acrobate qui a traîné mes savates de petits cirques de boîte en boîte. Pour une vie de trois fois rien, j'ai brisé mon cœur et mes reins.
Ça, c'est une chanson de ça, c'est ma composition, hein. Oui, c'est moi l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'une ?
Pascal Dabbe a lu quatre textes tirés de l'Évangile du Gitan. Réalisation, montage, mixage, Thierry Van Roy. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Communauté française de Belgique.
Massachusetts, qu'il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, io non posso proprio. Sai chi sei, aprimi la porta, non sai come stai tu laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, jongleur, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. Ouvre, tu es là, je sais, Je suis si là, tu sais, il ne me reste qu'une chance, celle que tu n'aies pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien, et la lumière s'éteint. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, io non posso proprio più. Sai chi sei, aprimi la porta, non sai come stai tu laggiù.
Merci beaucoup. Voilà.